Bonjour à tous, c'est le printemps, vous avez vu la différence, on a des fleurs partout, c'est magnifique, formidable. Je voudrais faire une lecture dans Hébreux 4, 10, pour commencer. La Bible nous dit, verset 8 déjà, « Si Josué leur avait donné le repos, il n'aurait pas après parlé d'un autre jour. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres comme Dieu des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là pour que personne ne tombe dans la même manière, de la même manière en refusant d'obéir. » Donc vous voyez, il y a le repos du temps de Josué, le Shabbat, et puis il y a un autre jour, c'est quand ? C'est aujourd'hui, parce que nous sommes entrés dans le repos du Seigneur. Il faut bien comprendre ces choses, c'est important de comprendre ces choses. Et Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est-à-dire que vous, si vous faites le Shabbat, ça ne plaît pas à Dieu, parce que c'est vous, c'est votre chair qui le fait. Alors que ça veut dire que vous n'avez pas compris les Écritures. Et si vous n'avez pas compris les Écritures, ben vous êtes déchu de la grâce. Voilà, c'est tout. Je vais vous lire un autre texte dans Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous mettez pas sous le joug de l'esclavage, c'est-à-dire de la loi. Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira à rien. Là, il parle de la circoncision. C'est la même chose que le Shabbat, toutes ces choses de la loi. Si vous faites ça, ça ne vous sert à rien. À rien du tout. Je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire. Il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Tout ce qui est écrit. Ça va être difficile parce que pour faire tout ce qui est dans la loi, il faut qu'il y ait un temple, il faut qu'il y ait la possibilité de faire des sacrifices, et il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifice, parce qu'il y a eu un sacrifice, c'est celui que Jésus a fait parfaitement à la croix, et voilà, donc, et puis vous ne pouvez pas faire, c'est impossible, la Bible dit que ce n'est pas possible d'obéir à toute la loi. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes déchus de la grâce. Il va fort, mais il a raison. Il faut que ces choses soient dites. Vous essayez de vivre selon la loi, vous êtes déchus de la grâce. Voilà. Quant à nous, c'est par l'Esprit que nous attendons de la foi la justice espérée. Car en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui opère par l'amour. Vous courriez bien ? Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité, c'est-à-dire à Jésus ? Cette persuasion-là ne vient pas de celui qui vous appelle. La persuasion que vous avez au sujet de l'obéissance à la loi, elle ne vient pas de Jésus qui vous appelle. Elle vient de qui ? De René Trocheux. Ça vient du diable. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et moi, j'ai confiance en vous, dans le Seigneur. Je sais que vous ne pensez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la peine. Quant à moi, mes frères, si je proclamais encore la circoncision, pourquoi serais-je encore persécuté ? La cause de chute. La croix serait donc réduite à rien. Qu'ils aillent donc se faire mutiler, ceux qui sèment le trouble parmi vous. Voilà. Tu obéiras à la loi, ben tu vas te faire mutiler, ça te fera du bien. C'est ridicule, c'est ridicule. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est chrétien et qu'on... Quand nous abandonnons la partie, c'est Dieu qui prend la main. C'est ça que je veux vous dire ce matin. Il attend que nous ayons, que nous voyons la fin de nos ressources. Nous ne pouvons pas obéir à la loi. On ne peut pas. On ne peut rien faire par nous-mêmes. Jésus le dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez rien faire, mais rien. Même le bien que vous voulez faire, si ce n'est pas avec moi, si c'est par vos efforts, c'est rien, c'est zéro aux yeux de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu a condamné tout ce qui est de la vieille création, tout. Et il a fait une nouvelle création, nous, ceux qui sont nés de nouveau. Il a cloué en la personne de Jésus notre chair qui ne sert plus à rien, sinon à glorifier Dieu en se soumettant à Jésus-Christ. Si nous essayons de faire quelque chose dans la chair, c'est-à-dire de nous-mêmes, par notre moi, eh bien, nous rejetons la croix de Jésus. Et nous sommes ainsi déchus de la grâce. Dieu a déclaré que nous ne méritons qu'une chose, c'est la mort. Celui qui pêche, il mourra. Et il sait très bien que personne ne peut observer la loi et que si tu désobéis ne serait-ce qu'à une loi, c'est comme si tu désobéissais à toutes. C'est écrit. Tu veux faire quoi? On est fichu. Lorsque nous croyons réellement Dieu, nous confirmons le verdict de Dieu en abandonnant tout effort charnel pour essayer de lui plaire. Nos luttes constantes montrent que nous n'avons pas compris les exigences de Dieu, ni les exigences de Dieu, ni la source qui nous donne le pouvoir de répondre aux exigences de Dieu. En voyant la loi, nous pensons devoir satisfaire à ses exigences. Mais il faut nous rappeler que, bien que la loi soit parfaite et bonne en elle-même, elle ne nous dit pas de faire du mal, elle n'est plus bonne quand elle est appliquée par une personne qui pense pouvoir l'accomplir et qui ne peut pas. Elle devient quelque chose qui nous condamne. Dans Romains 7, Paul dit « Misérable que je suis ». Il dit ça en tant que pharisien, quand il était pharisien. Il parle de trois phases de sa vie, de quand il était sans la loi jusqu'à sa bar mitzvah, jusqu'à 13 ans. Et puis ensuite, il parle de la phase du temps où il était pharisien. Et là, il dit « Misérable que je suis ». Ce misérable, c'était Paul qui s'efforçait par lui-même de satisfaire aux exigences de la loi. En tant que pharisien, il était zélé. Tellement zélé qu'il allait massacrer les chrétiens. Ça, c'est bien, c'est génial, ça, c'est merveilleux. Hein. Vous en connaissez des religions qui font ça? Oui, il y en a eu, il y en a encore. C'était la loi. Et la loi, c'était la cause de son tourment. Il dit « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Romains 7, 19. Vous voyez, je, ma chair, moi. Il y avait une erreur fondamentale de conception dans la pensée de Paul, comme dans la pensée de tous les légalistes qui croient être agréables à Dieu en faisant le Shabbat le samedi ou en se privant de certaines nourritures. L'autre jour, je suis allé voir avec Michou et Dominique Dieu, ma mère et Sylvie Vartan. C'est un film que je vous recommande. Et c'est un mariage juif, mais ce juif, il se marie avec une non-juive pendant le repas. Il y a de la nourriture qui n'est pas cachère. Et on voit tous ces religieux avec leurs chapeaux, leurs machins et tout ça, qui se lèvent de table et qui fichent le camp parce qu'il y a des crevettes dans l'assiette. C'est intelligent, ces gens, ils fichent envers la fête, quoi. À cause de leur loi. Ils sont sûrs qu'ils sont dans le vrai. sont sûrs qu'ils sont dans le vrai. Ils imaginent que Dieu leur demande à eux d'observer la loi et ils essayent de la mettre en pratique. Mais Dieu ne leur demande rien de semblable, ni à eux, ni à Paul, ni à moi, ni à vous. Dans Romains 6, 6, Paul parle du corps du péché. Et dans Romains 7, 4, il nous parle du corps de mort, de la mort. Qu'est-ce que c'est? Dans le chapitre 6, c'est tout le problème du péché qui est devant nous. Si vous relisez Romains chapitre 6. Ça fait déjà quelques temps que je vous prêche sur Romains 6 et Romains 7. Allez écouter mes vieilles prédications là-dessus, ces dernières semaines. Et dans le chapitre 7, c'est le problème de la mort qui est face à nous. Quelle différence y a-t-il entre le corps du péché et le corps de mort? Ben voici la réponse. Par rapport au péché, c'est-à-dire de tout ce qui déplaît à Dieu, le péché, j'ai un corps de péché. C'est-à-dire un corps qui est engagé activement dans le péché. Même si je ne veux pas, l'apôtre Paul dit, je veux faire le bien, mais je ne veux pas, je n'y arrive pas. Et l'apôtre Paul n'était pas pire que moi, ni pire que vous. On ne peut pas. Mais par rapport à la loi de Dieu, à savoir tout ce qui exprime la volonté de Dieu, j'ai un corps de mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Toutes mes activités à l'égard du péché fait de mon corps un corps de péché et mon échec à l'égard de la volonté de Dieu fait de mon corps un corps de mort. Par ma propre nature, j'accepte ce qui est mal. Par ma propre nature, j'accepte tout ce qui est du monde de Satan. Je refuse tout ce qui appartient à la sainteté, au ciel, à Dieu, par ma propre nature de pécheur. Je suis né dans le péché. C'est dans ma nature, depuis Adam et Ève, on est tous pécheurs. Est-ce que vous avez découvert ça dans votre vie? Il ne suffit pas de le découvrir en lisant et en comprenant Romains 6 et Romains 7. C'est bien de le comprendre intellectuellement, mais nous avons à découvrir que nous sommes encombrés du fardeau d'un corps sans vie à l'égard de la volonté de Dieu. Nous sommes encombrés par un corps sans vie, un corps de mort à l'égard de la volonté de Dieu. On ne peut rien faire. Il y a dans notre corps quelque chose qui n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu. La mort, c'est la faiblesse arrivée à sa dernière extrémité. La mort signifie la faiblesse absolue. La mort signifie qu'on est faible au point de ne pas pouvoir l'être davantage. C'est pourquoi Paul, étant sous la loi, avant sa conversion, s'écrit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Romains 7, 24. Et ce cri, c'est le cri qui plaît à Dieu. C'est le cri le plus spirituel, le cri le plus en accord avec l'Esprit de Dieu, avec les Écritures, qu'un homme puisse faire entendre, qu'une femme puisse faire entendre. Et il pousse ce cri seulement au moment où il sait qu'il ne peut rien faire. Il en a pris conscience. Je ne peux pas. Je voudrais bien, mais je ne peux point, comme disait l'autre. Alors il renonce à prendre des nouvelles résolutions. Il en a marre. Alors il crie, qui me délivrera? Avant ce cri, l'homme, après chaque échec, prends des résolutions. Moi, je ne le ferai plus, je ne le ferai plus. Au nom de Jésus, je chasse ce mauvais esprit, je ne le ferai plus au nom de Jésus. Et boum, il retombe. Après chaque échec, l'homme sous la loi redouble ses efforts de volonté et il se rend compte qu'il retombe sans cesse. Alors il crie au secours, parce qu'il est désespéré de lui-même. Alors il dit, il faut que je lise plus la Bible, il faut que je prie plus, il faut que je jeûne. Mais ça ne vous aidera pas à arriver à la victoire, ça. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de lire la Bible, au contraire, je vous dis sans arrêt, il faut lire la Bible. Lisez la Bible, c'est bien, mais ça ne vous aidera pas à arriver à la victoire. Jeûnez non plus, priez non plus. Ça ne vous aidera pas à arriver à la victoire contre le péché. Vous ne pouvez pas. Notre seul secours est en celui qui est l'objet de notre lecture et de nos prières. Notre confiance doit être en Jésus, notre foi. Écoutez Paul, il dit « Misérable que je suis ». Mais il ne déplore pas seulement sa misère, il pose la bonne question. Qui me délivrera? Qui? Où il est? Qui? Et c'est là que Jésus se présente à lui quelque temps après et lui dit, je suis celui que tu persécutes. Jusque-là, sous la loi, étant pharisien, il avait attendu une délivrance venant d'une chose, c'est-à-dire de la loi écrite. Désormais, il met son espérance dans une personne. Jusqu'ici, il avait cherché en lui-même la solution à son problème, dans ses propres forces, pour pouvoir faire le bien. Il a vu qu'il n'y arrivait pas. Maintenant, il détourne ses yeux de lui-même pour les tourner vers un sauveur. Qui me délivrera ? Le sauveur. Jésus. Il ne compte plus sur ses efforts personnels. Toute son espérance est désormais dans un autre. C'est plus en lui-même, c'est dans un autre. La délivrance nous vient de Jésus en croix, de Jésus ressuscité, de Jésus vivant. Quelqu'un a écrit l'autre jour sur Facebook, « Oui, mais il n'y a personne qui est jamais revenu de la mort pour nous dire ce qui se passe après. » Mais il faut être bête pour dire des choses pareilles. Jésus est revenu, et il le prouve encore aujourd'hui en faisant des guérisons, des miracles, des transformations de vie. Seulement, évidemment, si vous fréquentez que les boîtes de nuit, vous ne risquez pas de voir Jésus agir. Si vous fréquentez que des églises qui sont mortes, vous ne risquez pas de voir Jésus agir. La délivrance du péché devient nôtre pour le pardon de nos péchés. On regarde à Jésus sur la croix. Et pour connaître la délivrance du péché, parce que c'est une chose d'être pardonné, mais d'être délivré, c'est autre chose. Pour la délivrance de nos péchés, pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, nous regardons Jésus qui vit dans notre cœur. Jésus vit en vous. Mais si vous voulez faire toujours par vous-même, vous ne laissez pas la place à Jésus pour faire, alors il laisse faire. Il est en vous, mais il ne fait rien parce que vous faites, vous voulez faire vous. Et vous n'y arrivez pas. Notre pardon dépend de ce que Jésus a accompli pour nous à notre place sur la croix et notre délivrance et notre marche avec Dieu dépendent de ce qu'il accomplit en nous. Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Mais comment il l'accomplit ? En nous, par vous, par moi, il l'accomplit comme ça. Et toutes ces choses, nous devons les saisir par la foi et nous appuyer sur lui seul parce que c'est lui qui a tout accompli. C'est personne d'autre qui a tout accompli. Oh ouais, moi je préfère passer par sa maman parce que sa maman elle est plus gentille. C'est des idioties religieuses. C'est pas juste, c'est pas Marie qui est morte à la croix pour vos péchés, c'est Jésus. C'est lui seul qui a tout accompli et qui continue à tout accomplir. Ce n'est pas Marie qui vit dans votre cœur. Elle est morte. Quand vous priez Marie, vous priez une morte. Et ça, c'est une abomination d'après la Bible. Oh, mais t'es un protestant de base, t'es un protestant primaire. Bon, d'accord, j'accepte, je suis un protestant primaire. Ok, d'accord, ben, restez comme vous êtes, c'est bien. Vous êtes super content dans votre religion, c'est bien, vous êtes content. Eh ben, restez-y. Ne venez pas vous plaindre après. J'espère que vous avez compris ce que je vous dis. Est-ce que vous avez cette révélation ? Que sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Et Jésus vit en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ agissant. Christ accomplissant la loi au travers de vous, par vous. Bon, j'arrête. Je continuerai vendredi prochain, Dieu voulant. Et pour le moment, je vous laisse déjà digérer ça. Réécoutez-le. Parlez-en à vos amis chrétiens, faites-le même écouter à votre pasteur. Vous allez voir où il en est dans sa foi. On ne peut pas plaire à Dieu en faisant les œuvres de la loi par notre propre chair. Il faut laisser Jésus agir. Je reviendrai dimanche prochain, vendredi prochain sur ces choses, Dieu voulant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous aide à bien comprendre. Il faut que ça soit une révélation dans votre cœur. Si vous n'avez pas la révélation, priez pour que Dieu vous ouvre les yeux de votre cœur, pour que vous compreniez que Jésus n'est pas en vous, entre l'estomac et les poumons. Il est en vous pour agir, en esprit, en vérité, avec puissance. Contre le péché, contre le mal, contre la maladie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Au revoir.